RMC Motors avec Motorsport TV, Louis Amar.
Bonjour à tous, bienvenue dans Motors, on est ensemble en direct jusqu'à 14h. Dans quelques instants, nous reviendrons sur le magnifique Grand Prix de Chine, remporté la semaine dernière par Daniel Ricciardo. D'ici une vingtaine de minutes, Sébastien Ogier, le leader du championnat du monde des rallyes, sera notre invité exceptionnel. Et puis nous parlerons également des 24 heures du Mans Moto, la course se terminera dans l'après-midi. Avant cela, direction Aix-en-Provence, l'équipe de France de Fed Cup y dispute une demi-finale face aux États-Unis. Un partout après les matchs d'hier ce midi, Kristina Mladenovic est opposée à Sloane Stephens, sous les yeux d'Anthony et de Florent Serra. Salut messieurs.
Bonjour. Salut Louis, salut à tous.
Anthony, les deux joueuses sont sur le court?
Oui, elles viennent d'entrer sur le court. C'est encore, il y a encore quelques minutes d'échauffement, mais voilà, l'ambiance monte petit à petit ici à Aix.
Flo, quel match peut-on attendre?
Bah écoutez, moi je suis plutôt confiant pour le match de Kristina, parce qu'elle a très bien réagi hier lors de son premier match contre Van de Veg. Elle a été dominée dans la première manche. Par contre, il y a eu une très très belle attitude, et surtout elle a su adapter son jeu et se servir de cette terre battue, parce qu'au début c'était un match de dur. On sait que les Américaines, et vous verrez la différence de terre battue entre Monaco tout à l'heure et puis ici, c'était une terre battue qui est très lourde, sur laquelle les Américaines n'aiment pas trop glisser. Donc il faut jouer avec ça, et Kristina hier a très bien varié. Elle a utilisé du slice, elle a ralenti le jeu, elle a accéléré, et du coup elle s'est relativement bien elle a relativement facilement dominé ensuite Van de Veg, et je pense que elle a vraiment sa chance face à Stephens aujourd'hui. Je pense que ça devrait même passer pour ce match.
Anthony Reich, Florent Serra, merci messieurs, on vous retrouve très vite. C'est un match décisif de cette demi-finale de Fed Cup. 13h06 sur RMC, tout de suite la Formule 1.
RMC Motors dans le rétro.
Jean-Luc Roy est avec nous. Salut Jean-Luc.
Mais oui, il est là. Bonjour Louis, comment vas-tu?
Quel plaisir de t'accueillir. Pleine forme, et toi?
Impeccable, super.
Patrick Rivet est à mes côtés également. Bonjour Patrick.
Salut Louis et salut Jean-Luc.
Vous vous en souvenez, Patrick, c'était la semaine dernière sur le circuit de Shanghai. C'est parti, et Sébastien Vettel a pour l'instant réussi son départ. Il va devoir batailler face à Kimi Raikkonen, qui va chercher à le prendre dès le premier virage. Et c'est Valtteri Bottas qui est passé finalement devant Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton, à son tour, a tenté de se défaire du Finlandais. Il n'y est pas parvenu pour l'instant, mais une Mercedes a réussi à revenir sur le talon d'une Ferrari. Accrochage entre Verstappen et Vettel. Verstappen était venu chercher l'Allemand, et les deux monoplaces se sont touchés. Drapeau jaune agité.
Magnifique victoire de Daniel Ricciardo, magnifique.
Sixième victoire de la carrière, le pilote de Formule 1, du pilote australien qui a été opportuniste, et son équipe a bien joué. Valtteri Bottas va terminer deuxième avec la Mercedes, sauvant l'honneur de la firme à l'étoile devant Kimi Raikkonen.
Mais qu'est-ce qui crie cela? C'est pas possible. Ça se demandait qui c'est. Messieurs, trois grands prix cette saison, deux victoires pour Vettel, une pour Ricciardo, rien pour les Mercedes, tout juste une pole position pour Lewis Hamilton à Melbourne. Le Britannique déçu, inquiet en Chine à l'issue de la course. On écoute Lewis Hamilton.
Je ne pouvais pas faire mieux. J'ai eu beaucoup de mal avec la voiture hier et aujourd'hui, alors que vendredi tout allait bien. Il faut vraiment qu'on essaye de comprendre, parce que ça a été un désastre pendant la course. Il faut qu'on progresse, sinon on ne gagnera pas ce championnat.
Jean-Luc, il faut qu'on progresse, sinon on ne gagnera pas ce championnat. Voilà une phrase lourde de sens. Je te pose la question très directement. L'écurie Mercedes est-elle en crise?
Écoute, j'ai cru percevoir dans les propos de Toto Wolff, c'est pas une critique vis-à-vis effectivement de son pilote de pointe, mais une petite réserve, c'est-à-dire que Hamilton les a tellement habitués aussi dans le passé à se survolter, à tirer le meilleur peut-être d'une machine qui n'était pas toujours aussi dominatrice qu'on a pu nous aussi le croire, hein, parce qu'en fait, il y a que le pilote dans la voiture qui est capable de savoir exactement l'outil dont il dispose. Donc j'ai cru comprendre que, certes, la Mercedes est moins dominatrice, on le sait, certes, l'équipe Mercedes a commis, on va dire, au moins deux erreurs de stratégie dans le passé, ce qui a engendré évidemment la victoire des autres, mais je pense que là aussi on a fait le boulot comme il fallait du côté de Ferrari, parce que pour gagner un Grand Prix, bah, évidemment il faut commettre aucune erreur, et je pense qu'effectivement en crise c'est peut-être beaucoup, parce que je te prends le classement bien sûr, hein, au niveau des pilotes, Vettel est en tête avec 56 points, mais Hamilton est deuxième avec 45 et Bottas troisième avec 40, et au niveau des écuries c'est encore plus passionnant, Ferrari 86 et Mercedes 85. Alors bon, après trois grands prix, tu sais comme moi que arrivé en Europe, on va voir apparaître des packages aéro, des évolutions, etc. En Azerbaïdjan, bien sûr, pour le prochain, mais peut-être surtout à Barcelone.
En Espagne, oui.
Donc, voilà. Donc, à mon avis, le mot est un peu fort. Maintenant qu'on se pose des questions, oui, bien évidemment, et y a quelques raisons de se les poser.
Patrick, est-ce que la faute pour toi est davantage imputable au pilotage de Lewis Hamilton ou au stratégicien, comme on dit, le mot n'est pas beau.
Moi, j'aurais tendance à critiquer la stratégie, comme l'a dit Jean-Luc. Des erreurs ont été commises. On peut même presque dire qu'il y en a eu une par Grand Prix à Melbourne. Franchement, le calcul de la sortie des stands par rapport à Vettel n'est pas la bonne. On est un peu victime du fait qu'on veut déjà économiser les moteurs pour la saison. On est déjà sur un rythme qui n'est peut-être pas full attaque, et ce qui fait que à un moment donné, l'équipe est surprise par la sortie des stands de Vettel qui est devant Hamilton, qui d'ailleurs s'interroge. Le Grand Prix suivant, il y a déjà un changement de boîte de vitesse d'un côté. Valtteri Bottas, pareil, a-t-il vraiment eu le droit d'accélérer, de forcer l'allure tout au long du Grand Prix? Il fait une remontée extraordinaire sur Vettel, mais ça ne suffit pas. Et puis, franchement, en Chine, quand on regarde les positions des pilotes sur la piste, c'est pas Jean-Luc et toi qui me démentiront, mais Lewis Hamilton aurait pu faire comme Ricciardo et Verstappen, c'est-à-dire s'engouffrer dans les stands pour changer de pneus, ce qui n'a pas été le cas non plus.
Et il s'en est plaint d'ailleurs dans sa radio, Lewis Hamilton, à un moment dans ce Grand Prix, il a regretté la décision de son équipe de ne pas l'avoir fait repasser par la voie des stands. En même temps que les Red Bull, Jean-Luc, Hamilton, Bottas, est-ce que on sent d'après toi, une différence de niveau entre ces deux pilotes réelle aussi forte que l'an dernier, sachant que Bottas finalement s'est bien défendu en Chine il y a une semaine?
Écoute, le fond du problème, et Patrick vient de l'évoquer à nouveau, et tu sais très bien que je m'emporte contre ça régulièrement, c'est que le réel niveau des pilotes, je vais être cru, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que il y a tellement d'impératifs, d'économies, on l'a évoqué, de moteurs, quand on pense qu'effectivement, on n'a que 3 moteurs pour la saison. Et bien c'est vrai que dans certaines écuries, notamment Mercedes, parce qu'on est évidemment très puissant, et on sait qu'on a le meilleur moteur au monde, et bien on se dit dès le premier, le deuxième, ou même le troisième Grand Prix, qu'on va commencer à économiser, ce qui est une hérésie absolument totale. Mais on se dit, oui, ce qu'on pourra effectivement garder comme élément mécanique, surtout qu'il y a eu cette alerte avec la boîte de vitesse de Bottas, donc on se dit, on va commencer à gérer, mais c'est insensé, c'est le contraire de la course automobile, donc le fond du problème, il est là, donc pour te répondre, le niveau réel du pilote, on ne le connaît pas, on le connaît en fonction d'une stratégie déterminée par l'équipe, et c'est bien le problème de la Formule 1 actuelle, parce que si on avait encore un pilote à l'attaque du début à la fin, comme ça se produit parfois, quand par exemple il est retardé, et qu'on lui dit, vas-y, tu peux y aller, là le pilote évidemment, il serait égal, et puis
comme à Bahreïn,
advienne
pour
que
Hamilton,
pourra. Ouais. Advienne que pourra, et dans ce cas-là, on connaît son réel niveau. Ça, c'est vraiment très ennuyeux, pour ne pas dire plus. Parce qu'effectivement, tout se mélange à un moment, et moi, je comprends la frustration d'un type comme Hamilton. Quand il dit, j'ai très bien piloté pour le premier Grand Prix, j'étais au sommet de mon art, moi j'ai aucun reproche à me faire, et il est honnête, et je ne gagne pas, il y a de quoi être plus que frustré, en colère.
Et résultat, Mercedes est dans une situation inédite depuis l'introduction des moteurs hybrides en 2014. Les Mercedes n'ont pas réussi à remporter une seule course en ce début de championnat. Le corollaire de la crise chez Mercedes, c'est évidemment la situation chez Ferrari. Patrick, même si on a disputé encore que 3 Grands Prix, Vettel est-il aujourd'hui le favori pour le titre de champion du monde?
Sans doute est-il un des favoris. On le disait même avec Jean-Luc et Adrien en début de saison. Lequel entre Lewis Hamilton et lui sera l'égal de Juan Manuel Fangio avec 5 titres? Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas mal parti de son côté. En revanche, il a perdu aussi de gros points en Chine avec cet accrochage avec Max Verstappen, parce que franchement il aurait pu creuser encore un peu plus l'écart sur Lewis Hamilton. Donc Lewis Hamilton, franchement, en Chine, je sais pas ce qu'en t'en penses toi et Jean-Luc, mais il s'en est super bien sorti.
Oui, il l'a dit,
avec la pénalité de Verstappen, plus le fait que la Ferrari de Vettel a été quelque peu handicapée en termes de performance durant la fin de la course, le résultat n'est pas du tout celui escompté par Ferrari, par Vettel non plus.
Mais Jean-Luc, si on met de côté les circonstances de la course qui ont été assez défavorables à Sébastien Vettel en Chine, les performances de la Ferrari sont quand même assez éclatantes depuis le début de saison.
Oui, écoute, manifestement, on est au niveau. Alors, c'est bien parce qu'on se retrouve dans la situation qu'on a connue l'an dernier, et même encore plus avantageuse, semble-t-il, pour Ferrari, puisqu'on, tu t'en souviens bien évidemment, toute la première moitié de la saison, on va dire Ferrari dominé, faut rappeler qu'au break, au mois d'août, après le Grand Prix de Hongrie, eh bien, c'était Vettel qui était en tête. Donc, effectivement, on se dit, c'est génial. D'abord, quand on a une bagarre entre deux équipes, c'est forcément plus intéressant qu'entre deux équipiers. Ça, c'est une évidence absolue. Et surtout, quand il y a Ferrari dans le coup. Encore une fois, je suis obligé de le répéter à chaque fois. C'est pas pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est parce que c'est plus ouvert. Et puis, je vais te rajouter, mais je sais que t'allais me poser la question. Une bonne nouvelle, c'est que Red Bull Renault n'est pas loin. Je dis bien Renault, n'en déplaise à Christian Horner. Parce que la motorisation, c'est qu'elle est quand même française, et que cette troisième équipe qui peut brouiller les cartes, on voit bien qu'elle est opportuniste, comme elle l'a fait au Grand Prix de Chine avec un Ricardo d'une solidité. Bon, Verstappen, évidemment, fallait qu'il se calme un petit peu, mais encore une fois, moi, je serais le dernier à reprocher à Verstappen de tenter des attaques, d'avoir de la fougue dans un chien. Heureusement qu'il est là pour nous animer les paquets. Et puis tiens, comme par hasard, qui avait gagné en Azerbaïdjan un Grand Prix chaotique l'an dernier? Ricardo.
Daniel, voilà. Ricardo, absolument, dont tu as dit qu'il avait été le vainqueur de la semaine dernière en Chine, un vainqueur surprise. Évidemment, il a bénéficié des circonstances de course, mais il a une nouvelle fois démontré son tempérament.
C'est fou, c'est vraiment fou. J'adore ce sport, il est incroyable. Il y a tellement de hauts et de bas, c'est dingue, juste génial. Après la voiture de sécurité, j'ai compris qu'on avait une chance de revenir. C'était exactement l'opportunité qu'il nous fallait pour pouvoir gagner. Et il est hors de question de la laisser passer, d'autant que je me sentais vraiment bien dans la voiture. Dans ces conditions, tout autre résultat que la victoire m'aurait déçu. Je me suis promis de tout donner pour l'emporter aujourd'hui après cette voiture de sécurité.
In a way that I promised to myself to do everything I could to win today after that safety car.
Daniel Ricciardo en chaussettes la semaine dernière en zone mixte, parce que vous savez qu'il a pris l'habitude à l'issue de ses victoires ou de ses podiums d'enlever une de ses chaussures, de mettre du champagne dedans et d'en boire un petit coup. Patrick, les Red Bull peuvent-ils se mêler à la lutte? Et évidemment, on pense principalement à Daniel Ricciardo dans ce cas-là.
Mais on l'espère, je l'espère, et ce serait vraiment bien, et ce d'autant plus que les quelques grands prix qui vont arriver pourraient être également favorables à cette voiture et à ses pilotes. On se rappelle que Verstappen a gagné en Espagne, on sait que ses voitures seront bien à Monaco, Azerbaïdjan peut-être un petit peu moins, mais attention, Renault progresse énormément. Renault a donné la possibilité aux équipes d'utiliser un petit peu plus de puissance, donc forcément. Et puis on connaît le travail d'Adrian Newey et de ses ingénieurs dans les bureaux d'études. La voiture a énormément progressé en termes aéro, en termes de suspension avant aussi, avec quelques astuces qui font que la voiture se comporte très très bien dans toutes circonstances, en particulier au moment des freinages.
Jean-Luc, dans cet équipage très homogène qu'est celui de Red Bull, il semblerait quand même que depuis le début de saison, Daniel Ricciardo prenne l'avantage sur Max Verstappen.
Jean-Luc, oui, pardon, oui. J'avais une micro-coupure. Écoute, oui, il semblerait, tu me disais que...
Que Daniel Ricciardo ait pris l'avantage sur Max Verstappen depuis le début de saison.
Alors écoute, le problème de Verstappen, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est quelque part sa fougue, c'est-à-dire que c'est un pilote qui est tellement talenteux, il en veut tellement qu'effectivement, puis il est encore très très jeune, hein, faut quand même le rappeler régulièrement, il se laisse parfois emporter, ça a été le cas là, alors que le docteur Marco a lui-même dit, il aurait dû le gagner ce Grand Prix évidemment, mais derrière, heureusement chez Red Bull Renault, on a un type extrêmement solide, Daniel Ricciardo, qui lui en course, alors c'est un des plus solides, il se pose pas de questions, il est opportuniste comme jamais, lui il ne commet pas d'erreur, et ça c'est une force extraordinaire. Alors on sait très bien que l'avenir de Ricciardo n'est pas encore tracé totalement pour le moment, on se doute bien qu'il a eu
Daniel Ricciardo, en effet, c'était ce qu'allait dire Jean-Luc, je le sais, je le connais suffisamment pour finir ses phrases. Daniel Ricciardo convoité de très près par la Scuderia, où il pourrait reformer un duo qui avait fait des étincelles chez Red Bull il y a quelques années.
Absolument, hein, oui, avec Sébastien Vettel pour remplacer Kimi Raikkonen. Et effectivement, c'est vrai que c'est... Il est pratiquement, on pourrait presque dire, sous-estimé un petit peu,
oui.
Un petit peu effacé par la comète Verstappen quand ce dernier est arrivé en 2016 avec, on le disait à l'instant, la victoire carrément pour son premier Grand Prix au sein de la structure Red Bull. Mais effectivement, il est solide. Jean-Luc le disait à l'instant, quand on regarde la position des deux pilotes Red Bull au moment de rentrer dans les stands pour mettre les pneus tendres, et c'est bien Verstappen qui est devant Ricciardo. Et au final, qui ramène les gros points et qui ramène amène la victoire à Red Bull, eh bien c'est Ricardo.
Voilà. Et puis messieurs, il faut bien parler un petit peu de nos Français. Ça ne s'est pas bien passé pour eux la semaine dernière en Chine. Aucun dans les points, des problèmes techniques pour Esteban Ocon qui termine 11e, un accrochage avec son équipier pour Pierre Gasly qui termine 18e et un manque de chance tenace pour Romain Grosjean.
Il y a un chat noir. J'étais sur un arrêt avec ultra soft medium, c'était extrêmement dur à faire sur la course. Donc premier relais se passe pas trop mal, on s'arrête, je repars beaucoup dans le trafic, j'arrive pas à passer la Force India qui me bloque pendant un long moment. Et puis au milieu de mon relais, de très long relais sur les pneus medium, safety car. À partir du moment où le safety car arrivait au milieu de course et que j'étais sur un arrêt et que tous les mecs autour de moi étaient sur deux arrêts, c'était mort. Comment ça a été un petit peu dur, je pense que voilà, en Australie on monte quelque chose de génial, à Bahreïn je reviens et honnêtement je pense que je pouvais faire 7, quoi, qui repart en beau. Et là encore une fois, je pense qu'on aurait pu faire peut-être 7 et 8 ou 7 et 9, voilà, en fonction de la stratégie d'équipe. Et il y a le safety car au mauvais moment, donc ça fait beaucoup.
Un mélange de colère et d'émotion dans la voix de Romain Grosjean qui était vraiment touché la semaine dernière après le Grand Prix de Chine. Jean-Luc, j'en fais appel à ta célèbre boule de cristal qui sera le meilleur français en fin de saison.
Ouh là 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 là, tu m'en demandes beaucoup. Écoute, juste si tu permets un tout petit mot pour revenir d'un mot sur Verstappen. Effectivement, c'est un des garçons les plus talenteux du plateau et moi je pense que c'est un futur champion du monde. Voilà, ça je l'aurais dit. Alors écoute, j'en reviens aux Français. Écoute, qui sera le meilleur Français? Une nouvelle fois, ça dépendra énormément de sa machine. L'équipe Haas manifestement dispose d'une très bonne machine cette année, ça on l'a compris, mais elle commet des erreurs et puis ils n'ont pas de chance peut-être, mais bon, Moi, je pense que je vais jouer quand même Ocon parce que une équipe ne disparaît pas comme ça. On sait que effectivement son équipe a connu quelques soucis Force India de compétitivité depuis le début. Je pense qu'ils vont se remettre en selle et dans le coup. Alors il y aura des coups d'éclat de Pierre Gasly. Puis tu sais, moi ce que j'attends, c'est des grands prix sous la pluie ou des grands prix imprévus où le talent du pilote peut refaire surface vraiment, où il y a plus de gestion, où on est en mode full attaque. Et là, on va voir ce qu'on va voir. Et moi, effectivement, je pense que du côté d'Ocon ou du côté de Gasly, on a largement, mais largement, le talent pour briller. D'ailleurs, Pierre n'a pas laissé passer l'opportunité qu'il a eue. Je peux te dire que si jamais il en a une deuxième, ou une troisième, ou une dixième, il sera là.
Et je souscris complètement à ton analyse quant à la pluie, parce que Esteban Ocon se distingue particulièrement dans ces conditions. On se souvient d'un Grand Prix du Brésil, alors qu'il était encore chez Manor, où il avait été étincelant. Et puis la qualification de la saison dernière à Monza, où Esteban Ocon, sous la pluie, avait réussi à se qualifier en troisième position. Patrick, c'est également une saison importante pour Esteban Ocon, parce qu'à la fin de cette saison, il y a peut-être un baquet qui va se libérer chez Mercedes.
Et peut-être, effectivement, donc il faut toujours être le plus performant possible, battre également son équipier dans ces conditions. C'est vrai que pour l'instant, le début de saison de son équipe Force India est un petit peu compliqué, mais c'est sûr qu'il va rebondir. On espère simplement qu'il ne rebondira pas contre le mur, comme il l'a fait en Azerbaïdjan la saison dernière avec Sergio Perez. On se rappelle, ça a été une des bagarres incroyables de ce Grand Prix fou. On le disait sur cette antenne, peut-être le Grand Prix le plus fou de la saison 2017. Ah, et c'est le prochain dans le calendrier.
Tellement fou que Lance Stroll avait fini sur le podium.
Tout arrive, effectivement,
tu l'as dit Patrick, prochain rendez-vous c'est en Azerbaïdjan. Merci beaucoup Jean-Luc.
Mais c'est toujours un plaisir et puis on va se retrouver la semaine prochaine justement.
Absolument.
Pour l'Azerbaïdjan.
À Bakou pour le troisième épisode de la tournée des droits de l'homme après la Chine et après Bahreïn, qualification samedi, je l'ai dit, c'était mon défi, qualification
samedi. Il n'y a pas que cela si tu vois ce que je veux dire.
Non, mais ça, ils sont un peu espacés, ils ont tué du nez là-dessus.
C'est ça.
Les qualifications samedi à 15h en direct sur RMC, la course dimanche à 14h10 à suivre évidemment avec toi Jean-Luc, avec Adrien Tambay sur RMC, la radio de la Formule 1. Dans un instant, un quintuple champion du monde et l'invité de Motors. Mais d'abord, petit détour par le tennis à Aix-en-Provence. C'est parti entre Kristina Mladenovic et Sloane Stephens, demi-finale de Fed Cup match 3. Anthony Reich, Florence Serra.
Oui, et à Aix, pour l'instant, ce début de match, Louis est à l'avantage de l'américaine Sloane Stephens qui a breaké Kristina Mladenovic sur son deuxième jeu de service et qui vient de confirmer son break. Elle mène l'américaine 3 jeux à 1 après un petit quart d'heure de jeu, mais on a déjà vu un petit peu les prémices de la physionomie que pourrait être cette rencontre avec une Kristina Mladenovic qui varie beaucoup. Et évidemment, les coups de, les cartouches, les gifles en coup droit et en revers de Sloane Stephens, je pense que c'est là où est la la variation, hein, Fossera pour Cristina.
Ouais, par contre, je trouve qu'en ce début de match, elle se débarrasse un petit peu de la balle, justement, Cristina, en voulant vraiment trop en faire parfois, en tentant le coup gagnant un petit peu difficile, et un petit peu maladroite aussi dans sa finition au filet. C'est dommage, elle se fait breaker sur une volée qu'elle peut vraiment mettre dans le terrain. Donc il y a des petites erreurs, mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça, parce qu'on connaît sa réaction, la superbe réaction qu'elle a eue hier en perdant le premier set 6-1. Donc voilà, il faut juste régler un petit peu ça, et je pense que elle va rectifier le tir rapidement.
On l'espère. Merci messieurs. 13h23 sur RMC dans un instant. Sébastien Ogier est l'invité d'RMC dans Motors.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors. Louis Amar.
13h25 dans Motors. Merci d'écouter RMC. Dans un instant, on continue notre tour de l'actualité des sports mécaniques. D'abord, on retourne à Aix-en-Provence. C'est important. Demi-finale de Fed Cup entre la France et les États-Unis. Cristina Mladenovic en difficulté. Anthony Reich, Florent Serra face à Sloane Stephens.
Et le deuxième break pour l'américaine dans ce premier set après 18 minutes de jeu. Sloane Stephens qui mène désormais 4 jeux à 1 face à Cristina Mladenovic. À l'image de ce dernier jeu, on a encore vu une Cristina Mladenovic qui a essayé des choses, mais qui est trop maladroite, comme le disait Florent Serra tout à l'heure. Flo, on a l'impression qu'elle reproduit un petit peu le même premier set qu'hier face à Coco Vandeweghe.
C'est exactement ça, parce que l'idée avant tout, c'est déjà de faire jouer Stephens, d'essayer de la déplacer, donc de mettre la balle dans court, d'être un tout petit peu plus régulière, et après la variation, ça vient dans un second temps. Faut pas confondre la variation et ensuite aussi se débarrasser tout de suite de la balle en tentant des amortis, en tentant quelque chose, un coup gagnant. Et là, elle confond un petit peu les deux, Cristina. Donc il va falloir vite rectifier le tir. Il y a un double break, et Stephens, j'ai l'impression qu'elle pour l'instant elle accepte bien sûr les fautes de Cristina, mais elle a pas vraiment fait grand chose non plus.
Anthony, pourtant tu l'avais bien senti tout à l'heure, Cristina Mladenovic, quand tu l'as vu s'entraîner.
Oui, à l'entraînement ce matin, j'ai trouvé que c'était son meilleur entraînement de la semaine. En termes d'intensité de frappe, en termes d'intensité physique, elle était très présente, certainement en confiance par rapport à la victoire d'hier. Mais j'ai aussi trouvé que Sloane Stephens était bien plus dynamique que les jours précédents. On sent que plus l'américaine passe du temps sur ce terrain et sur cette terre battue qui ne lui paie pas forcément, et bah plus elle est en place et plus elle trouve les repères, et ça se voit quand même un petit peu dans ce début de match, bien facilité évidemment par Cristina Mladenovic et ses fautes directes.
Et puis rappelons aussi que hier, même si elle était largement devant au classement, Sloane Stephens face à Pauline Parmentier, elle sauve 5 balles de 7 dans la première manche, elle joue pas son meilleur tennis, elle n'a pas paniqué elle aussi, et elle a su remporter ce match en jouant peut-être pas son meilleur tennis, mais ça lui donne aussi un petit peu confiance sur cette surface, comme disait Anthony. Je trouve qu'elle glisse un petit peu mieux aujourd'hui, donc voilà, on connaît la réaction de Cristina, on l'a vu hier, par l'attitude ça va passer, et on espère qu'elle va vite réagir.
Et on va vivre avec vous évidemment messieurs tout à l'heure la fin de ce set, tous les points importants de cette demi-finale de Fed Cup, c'est en direct ce week-end sur RMC, 13h28.
RMC Motors.
World Champion. Oh my God, I can't believe it. Thank you so much guys.
Radio Paddock.
I can't believe it. Salut Aurélien Tirsin.
Salut Louis, bonjour à tous.
Avec toi pour les dernières infos de tous les paddocks du monde, en commençant par ceux du Mans, les 24 heures moto en cours depuis hier après-midi, où en est-on?
Ah déjà, bonne nouvelle pour les pilotes, il reste 1h30 à parcourir, voilà, le plus gros est derrière,
quille,
même si là, ça,
ouais,
ça commence à mon avis à crisper un peu les avant-bras sur les bécanes, mais voilà, pour l'instant, le classement, on a la Honda numéro 5 d'Alan Teixeira en tête, derrière une autre Honda, la numéro 111 avec Grégory Leblanc, en troisième position la BMW de Whipple Racing avec Michael Laverty notamment. En quatrième place, les Suisses, la Bolliger Team, une Kawasaki numéro 8. À la cinquième place, Randy Depunier, ancien pilote MotoGP, pour l'instant à la cinquième place avec la Kawasaki numéro 11. Et en sixième position, la première équipe stock, la Three Arts Moto, le Team 95 de Mathieu Luciana. Donc voilà, et on va également s'intéresser à la BMW Tecma numéro 9, l'équipage de David Perret. Malheureusement, casse moteur, ils ont abandonné ce matin à 6h34 exactement. Ils étaient troisième à ce moment-là en qualif. C'était le premier team privé. C'était une belle performance. Malheureusement, abandon pour BMW Tecma.
Et justement, le patron du team BMW Tecma, Michel Auguizot, est l'invité de Motors à 13h29. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bon alors Michel, ça a été des 24 heures du Mans compliquées jusqu'à présent pour vous. Vous étiez pourtant parmi les favoris. Vous aviez annoncé la couleur, visé un top 5. Que s'est-il passé tout simplement?
Disons qu'on a subi une avarie mécanique qui nous a obligés et contraints à abandonner. Donc par contre, une fois de plus, on a démontré le potentiel fantastique de la moto et de l'équipage. Donc pour nous, c'est un sans faute pendant 16 heures de course. Et malheureusement, comme souvent ça peut arriver en sport mécanique, un ennui mécanique fait que, eh bien, on est obligé d'abandonner.
Michel, comment on réagit justement après 16 heures de course, après tant d'efforts consentis? Ça doit être terrible de voir tout ça s'arrêter sur un souci mécanique.
Oui, bien sûr, c'est terrible. Mais enfin, nous sommes une équipe aguerrie. Les pilotes sont des pilotes d'expérience. Ils savent que ça fait partie du jeu. Il faut savoir que ce que je peux donner comme explication, c'est que cette année, le temps était magnifique, chose un peu inhabituelle au Mans. Donc on s'attendait pas, personne ne s'attendait qu'on aurait une charge aussi importante au niveau du moteur, des pneus, du châssis, des freins, parce que les moyennes étaient très élevées, donc il n'y a pas eu beaucoup de safety car. Donc c'est peut-être été la conséquence donc de tirer un petit peu trop sur la bête, comme on dirait, et le fait d'avoir cette défection.
Question de Patrick Rivet.
Bien sûr, Michel, bonjour. C'est vrai qu'on est un petit peu, on pourrait faire le parallèle avec l'automobile. Aujourd'hui, une course de 24 heures, c'est un sprint qui dure pratiquement autant. Et c'est vrai qu'entre, on a vu au terme des essais, les motos de tête, de devant, on savait que la course allait partir quand même sur un rythme assez élevé, avec cette surprise du presque 30 degrés et une piste très chaude. Donc forcément, effectivement, la mécanique est soumise à de sacrée contrainte.
Complètement. Et je vous rappellerai quand même que BMW, dans le domaine de l'endurance et de la vitesse, du racing, est une entreprise qui est jeune, par rapport aux Japonais qui, eux, depuis plusieurs décennies, Honda depuis 40 ans, Suzuki, Kawasaki, etc., qui ont emmagasiné des tas d'informations, qui ont des tas de teams. Et là, BMW, qui fabriquait des flats, vient avec un modèle hyper racing, hyper compétitif, doit rattraper toutes ces années perdues. Et c'est vrai qu'il faut accepter le fait qu'on puisse avoir quelques petites difficultés au départ.
Et c'est vrai que BMW, on a l'impression que la marque allemande fait un petit peu le yo-yo en endurance. Elle est là, elle est présente, elle est un petit peu moins, elle s'investit peut-être, comme vous venez de le dire, un petit peu moins que les Japonais. Et que faudrait-il pour vraiment faire en sorte que cette marque, qui d'une certaine façon a su également évoluer au niveau de ses produits routiers, puisse s'investir un petit peu plus dans ce championnat qu'est l'endurance?
Je pense que, déjà, je voudrais pas faire une ingérence chez BMW. Je pense qu'ils font le maximum. Ils ont un maximum de clients à contenter, pas seulement en racing. Donc, effectivement, ce sont les produits marketing à développer, des décisions et des stratégies commerciales à opérer. Donc, c'est sûr que les temps ont changé. La course se pratiquait d'une certaine façon il y a 20 ans, qui est complètement différente maintenant. Il y a des comptes à rendre, etc. Donc, le souci d'une marque comme BMW, c'est de procurer un produit top qui puisse satisfaire donc tous les utilisateurs de produits compétitifs et racing, et outre de pouvoir gagner des courses, donc pour prouver la fiabilité de gagner des courses au long cours comme les 24 heures du Mans ou le Gold d'Or.
Justement,
donc, ça c'est assez récent, donc c'est difficile. On peut pas jeter la pierre quand on voit des Honda. Moi j'ai été pilote il y a 35 ans, on courait avec des gens comme Coudray, etc., des pilotes officiels, Chemarin, etc. Ils étaient déjà engagés comme team d'usine et ils ont toujours jamais baissé les bras, et donc vous vous rendez compte de l'expérience qu'ils peuvent avoir. Et BMW qui arrive depuis moins d'une décennie avec un modèle extraordinaire, parce que le moteur, je vous rappelle, est vraiment très performant, et donc effectivement il faut laisser, je pense, encore un petit peu de temps au temps pour pouvoir être au plus haut niveau.
Alors une question pure, qui va ausculter la pièce incriminée? C'est vous, c'est BMW qui va regarder un petit peu, désosser la moto pour regarder ce qui s'est passé?
Oui, ben c'est BMW, le constructeur, qui va analyser et réceptionner le moteur.
Prochain rendez-vous pour vous?
Le bol d'or.
Eh bien, on suivra ça
évidemment
de très très près.
Michel Auguizot, une question, Michel Auguizot, quand même, sur une course aussi longue que celle des 24 heures du Mans moto, avec trois hommes dans votre équipe, comment on gère l'humain, surtout quand il y a une déception comme ça, parce que ça fait partie de votre travail principal?
Bien sûr. Alors, ce que je voudrais apporter comme précision, dans les changements les évolutions, c'est que maintenant, une course d'endurance, pour moi, c'est une définition qui est un peu marrante, mais c'est 24 courses de vitesse, en fait. Et vous avez 3 pilotes de vitesse qui se donnent à fond pendant 24 heures. À chaque fois qu'il prend son lait, 1h20 ou 1h30 après, il refait une course de vitesse. Il se donne à fond. Les machines subissent cet effort. En plus, les motos sont de plus en plus rapides, donc elles vont de plus en plus vite. Les freins subissent cet effort. Les châssis subissent les contraintes des pneus qui ont évolué. Donc, tout va vraiment plus vite. Donc, on est vraiment plus du tout sur les modèles qu'on connaissait de l'endurance. Où on disait, coupe un peu les gaz, il vaut mieux arriver, etc. Là, si tu coupes un petit peu, etc., tu finis 15 ou 20. C'est plus la même.
Voilà. Et donc, dans quel état vous retrouvez vos pilotes après un relais?
Ils sont en excellente forme. Ce sont des pilotes pros qui savent se soigner leur santé physique, sportive, qui ont une hygiène impeccable. Et je peux vous assurer, quand vous prenez un pilote comme Julien, Julien D'Acosta, quand il part au 8e relais, il est aussi frais qu'au premier. Bon, faut savoir qu'on est une équipe structurée, on a deux kinés, on a toute l'équipe autour pour encadrer les pilotes, pour justement qu'ils n'aient aucun souci. Ils ont une chose à faire, c'est piloter dans les meilleures conditions. Le rayon d'action entre la moto qui quitte à l'issue d'un relais et l'endroit où il va le plus loin, il est seulement de 20 mètres. Il va pas ailleurs. Et tout, il retrouve tout son l'environnement dont il a besoin pour faire les meilleures performances.
Et on rappelle que votre équipage était composé en plus de Julien D'Acosta, de David Perret et de Camille Edelin. Merci beaucoup Michel Auguizot d'avoir été invité de Motors. Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Aurélien Tirsin, on continue Radio Paddock avec ceux de MotoGP avant la course de ce soir aux États-Unis, le Grand Prix des Amériques.
Ouais, effectivement, à Austin, au Texas, on connaît la grille de départ. En pole position, Maverick Viñales, l'Espagnol en première ligne avec lui, l'Italien Andrea Iannone et notre petit Français, Joan Zarco, notre petit qui commence à grimper désormais, Joan Zarco, troisième. Exactement, Marc Marquez, quatrième, qui a été rétrogradé. Il avait fait la pole, c'était sa sixième consécutive à Austin. On vous dira pourquoi dans un petit instant. Valentino Rossi, cinquième, sixième, Jorge Lorenzo, l'Espagnol, et septième sur la grille, Cal Crutchlow, vainqueur en Argentine la semaine passée, et qui est également le leader du championnat du monde. Donc septième, le Britannique Cal Crutchlow. Donc Marc Marquez, quatrième, il avait signé la pole, sa sixième consécutive à Austin, mais il a été déclassé pour avoir gêné notamment son compatriote Maverick Viñales en roulant en ralenti sur la trajectoire. Depuis, il s'est un petit peu excusé, il a dit que devant lui, il y avait Andrea Iannone, l'Italien, qui était aussi en ralenti, il avait pas vu que Viñales était dans son dos. Enfin voilà, il l'a gêné, les commissaires de course l'ont sanctionné. Pas de pole pour Marquez, il sera quatrième aux côtés de Valentino Rossi, qui l'a également fait tomber en Argentine.
Oui.
Ça sera aussi croustillant à voir ce départ.
C'est ça, Marc Marquez qui multiplie, Patrick, les erreurs.
Bah, un petit peu les boulettes. Saison, on pourrait presque prononcer ce terme, les boulettes pour Marc Marquez, effectivement. Alors, c'est un petit peu étonnant de la part d'un quadruple champion du monde, mais il nous livre des performances un petit peu étonnantes hein, depuis le début de la saison, à tel point qu'il n'est même pas en tête du championnat, ce qu'il aurait dû faire. Et c'est vrai que franchement, si on revient sur le Grand Prix d'Argentine, c'était quand même un petit peu catastrophique. Il les a enchaînés et là, il en fait une petite nouvelle. Voilà. Alors on sait que la Dorna voudrait prendre quand même quelques mesures. Les pilotes ont demandé à la Dorna de prendre des mesures pour tout ce qui s'est passé, en particulier ces accrochages entre Marquez et ses adversaires en Argentine, contacts qui se sont terminés carrément par la chute de Valentino Rossi, mais il y en avait eu d'autres avant.
Est-ce qu'il y a un problème avec Marquez du coup en ce moment là?
Non, je crois pas qu'il faille dire ça. On pourrait faire le parallèle avec ce que l'on disait tout à l'heure en Formule 1 avec Max Verstappen.
Absolument.
Voilà, même si Marquez a un palmarès autre que celui de Verstappen puisqu'il est déjà multiple champion du monde. Non, il y a simplement qu'on a affaire là à des pilotes qui ne s'avouent jamais vaincus. En Argentine, ce qui s'est passé pour Marquez, c'est une catastrophe pour lui. Il doit partir en première ligne, il fait ses allers-retours sur la piste qui lui valent des ride-through, comme on dit, c'est-à-dire qu'il doit passer par les stands. Il repart de plus belle, il attaque dans toutes. On se rappelle quand même que la piste était humide, avec des traces d'eau par endroit, donc c'était quand même assez catastrophique.
Bah, Patrick, visiblement, les pénalités ne l'inquiètent pas. Pour l'instant, ça ne l'arrête pas.
Voilà, les pénalités. Mais je crois pas que les pénalités un jour l'arrêtent, quoi. Quelque part, c'est son tempérament.
Bah, certains ont réclamé de plus importantes.
Oui, est-ce qu'il faudrait... Bah, alors c'est vrai que si à un moment donné on se retrouve avec des pénalités en points ou au niveau du championnat du monde, bien sûr ce sera, il se calmera peut-être un petit peu, mais quand même conservons cette vista et apprécions cette vista.
Rapidement, Aurélien Tirsain, une bonne nouvelle pour un membre de notre Dream Team, Adrien Tambay n'était pas dans Motors aujourd'hui, mais ça va, son mot d'excuse est validé.
Voilà, ouais. Effectivement, Adrien, une bonne nouvelle pour lui, il est de retour à la compétition en Blancpain GT Series Endurance Cup, première course de la saison. Il est à Monza, donc en Italie. Il est dans l'équipe Straka Racing, c'est une Mercedes en GT3, c'est le plus haut championnat dans le monde GT3, Patrick.
Absolument.
Et donc voilà, il va concourir tout à l'heure. Il est 15e sur la grille de départ, Adrien, donc on lui souhaite évidemment bonne chance pour faire un super résultat en Italie.
Et on pense fort à lui, Adrien Tambay, que vous retrouverez la semaine prochaine avec Jean-Luc et avec moi au commentaire du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1. 13h40, juste avant la suite de Motors, nouveau détour par Aix-en-Provence, France, États-Unis, demi-finale de Fed Cup, et ça ne s'arrange pas pour Kristina Mladenovic, Anthony Reichland, Ferrari.
Ça va même beaucoup trop vite là pour la Française dans ce duel des numéros 1 avec Sloane Stephens, l'Américaine qui a conclu en 28 petites minutes cette première manche, 6 jeux à 2, bien aidée par les 15 fautes directes de Kristina Mladenovic. Ça va un tout petit peu mieux dans cette entame deuxième set, mais malheureusement, première alerte, elle est menée, la Française 15-40 sur son service. Elle fait encore beaucoup trop de fautes, hein, Flo Serra.
Oui, et puis en plus sur sa seconde balle de service, elle est en difficulté. Tout de suite, Stephens qui sur les premiers coups de raquette est assez brillante, donc ça se complique pour Kristina, parce qu'en plus l'Américaine, elle ne s'affole pas. Quand Kristina varie, elle remet la balle dans le terrain et elle laisse en fait Kristina Mladenovic s'empaler un peu côté coup droit. Elle fait énormément de faute.
Merci messieurs, 13h41, l'heure des cadeaux sur RMC. On vous offre aujourd'hui vos places pour assister à la course de Formule, le Qatar Airways Paris e-prix 2018. Ça se déroulera le 28 avril à Paris. Pour tenter de gagner vos places, il vous suffit d'envoyer auto AUTO par SMS au 7 32 16. Bonne chance. Dans un instant, Sébastien Ogier est l'invité de Motors sur RMC.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Louis Amar.
13h44 sur RMC. Dans un instant, la suite de Motors. Avant cela, on repasse par Aix-en-Provence. C'est la demi-finale de la Fed Cup entre la France et les États-Unis. Kristina Mladenovic est opposée à Sloane Stephens. Anthony Reich, Florent Serra.
Et la Française qui s'est fait breaker dès son premier jeu de service dans ce deuxième set. Mais elle va un petit peu mieux là, même si elle vient de concéder ce point, et l'Américaine qui mène 40-30 sur son service. J'ai peut-être une explication à ce mauvais début de match. C'est psychologique. Hier, elle a fait les paris avec nous en conférence de presse après sa victoire face à Coco Vandeweghe. Elle était persuadée de jouer Madison Keys. Et elle disait, je ne me trompe quasiment jamais. J'avais la composition au tour précédent. Je pense que je jouerai Madison Keys demain, donc aujourd'hui. Et peut-être que l'approche du match a été différente pour elle. Qu'est-ce que tu en penses, Florent ?
Ouais, après c'est Kristina, parfois elle a des idées reçues, elle est persuadée. Maintenant, je pense que Yannick a dû quand même lui en parler. Elle doit être prête à affronter Stephens, qui a peut-être pas fait un énorme match hier, mais qui a une belle opposition avec une super Pauline Parmentier. Je pense que ça a été réglé en interne, mais tu as raison, elle peut se faire surprendre là-dessus. Et puis dans son jeu là, pour l'instant, ça va trop vite en fait. J'aimerais qu'elle réagisse tout de suite, parce qu'après ça va être trop tard, donc il faut débreaker immédiatement et pas la laisser prendre les devants, l'Américaine, sinon on peut dire 2-1, ça va devenir de plus en plus compliqué.
1-7-0 donc pour Sloane Stephens face à Kristina Mladenovic, et 1-0 pour les États-Unis dans le deuxième set. Dans un instant, nous sommes en ligne avec un quintuple champion du monde.
RMC Motors,
gauche 90, 150 mètres, droite ligne, droite 120,
le briefing.
Bonjour Sébastien Ogier.
Bonjour, salut à tous.
Merci d'être en direct avec nous dans Motors. Sébastien, 3 rallyes remportés sur 4 depuis le début de la saison. Vous sortez d'une victoire au Tour de Corse. Pour la première fois depuis un an et demi, vous avez remporté 2 rallyes consécutifs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un début de championnat parfait ?
Parfait, j'irai pas jusque là, parce que c'est vrai qu'on a en même temps connu un rallye de Suède assez compliqué avec notre position d'ouvreur. Donc finalement, si on fait le bilan après 4 courses, c'est sûr que 3 victoires c'est top. Au niveau des points, par contre, c'est pas forcément mieux que l'année dernière. C'est plutôt similaire en nombre de points, mais dans tous les cas, c'est un début de saison très positif pour nous, parce que c'est vrai que en finissant le championnat 2017, on souffrait un petit peu quand même face à la concurrence au niveau de la pointe de vitesse pure. Et là, en ce début de saison, on voit clairement qu'on a franchi un step, que toute l'équipe a progressé, et ça c'est rassurant pour cette année et ça fait plaisir.
Question de Patrick Rivet.
Oui, Seb, bonjour. Déjà, une première bonjour. Petite question, on va dire, c'est pratiquement pour voir un petit peu si on a bien regardé. J'ai l'impression, effet d'optique ou pas, que tu as un petit peu changé ta position de conduite pour le Tour de Corse. Peut-être un tout petit peu plus haut pour voir la route. C'est spécifique au Tour de Corse ou c'est pour le reste de la saison?
Non, c'est pas ça. Honnêtement, c'est certainement un effet d'optique, je sais pas, mais ma position de conduite n'a pas forcément changé. C'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on peut jouer de temps en temps un petit peu pour la répartition des masses dans la voiture et pour essayer d'optimiser, mais très honnêtement, là, en Corse, j'avais rien changé.
Par rapport, tu viens de le dire aussi, au travail de l'équipe, sur quoi l'équipe a-t-elle travaillé durant durant tout l'hiver et dans quel domaine la voiture a progressé? Là aussi, si on compare par rapport au Tour de Corse 2017, la différence est quand même assez importante en termes purs de performance.
Alors j'espère que vous avez beaucoup de temps parce qu'il va y avoir beaucoup de points à énumérer.
On a le temps.
Non, en fait, la vérité c'est qu'on a essayé de travailler un petit peu partout sur la voiture. Hein. Il n'y a pas de point où on se dit bon là on est parfait, il faut laisser tomber. Du moteur qui a progressé avec une Evo qui est arrivée dès le début d'année jusque le niveau châssis, on a travaillé les suspensions sans cesse sur les différentiels, ça a évolué également. La voiture travaille aussi au niveau aérodynamique et bon, on n'a pas encore toutes les évolutions qu'on veut. On devrait avoir de nouvelles évolutions qui arrivent cette année. Suite au Mexique, la voiture est restée quelques jours aux États-Unis dans les infrastructures de forte performance pour développer justement cet aspect-là. Donc, j'ai envie de dire un petit peu de partout et je suis le premier vous me connaissez assez perfectionniste, à essayer de pousser mon équipe sur chaque détail pour essayer d'optimiser tout ce qui peut l'être.
Alors on parle bien sûr du retour de Ford aux côtés de l'équipe de Malcolm Wilson, M-Sport. En quoi tu peux quand même définir le pourcentage? M-Sport a beaucoup plus quand même travaillé sur l'évolution que Ford. L'apport de Ford, pour l'instant, il est juste en termes aéro, si on parle simplement sur un plan technique.
Non, en fait, je pense que l'apport de Ford Performance, il va être là, mais il va falloir attendre un petit peu. Il sera pas forcément là. Là, je vous ai juste cité un exemple, un aspect que Ford Performance nous a aidé récemment. Mais il travaille également actuellement sur d'autres plans, le moteur toujours, pas mal de petites choses. Mais le gain sur ce début d'année 2018, il est là grâce aux efforts qu'on a fait avec M-Sport l'année dernière. En fait, le travail qu'on effectue, il prend toujours assez un petit peu de temps à se mettre en place et à vraiment tirer les bénéfices. Donc, je suis convaincu que sur du moyen terme, et peut-être moi, j'espère dès cette milieu de saison, fin de cette saison, on aura encore des évolutions qui vont arriver grâce à l'apport de Ford.
Petit retour également sur la dernière course, c'était le Tour de Corse. Tout s'est bâti véritablement le vendredi, ça a été une première journée. Alors, on parlait de début de championnat quasi parfait. Est-ce que là, cette journée du vendredi, tu la considères comme quasi parfaite?
Oui, là, je peux m'aventurer un peu plus et dire que c'était une journée parfaite, parce que c'est sûr que j'étais même... le premier surpris par les écarts créés ce vendredi, quand on voit la compétitivité actuelle et la difficulté de faire des différences sur un championnat hyper serré, c'était une agréable surprise pour moi de voir que le vendredi soir j'avais déjà plus de 30 secondes d'avance. La fin du rallye a pour autant été presque plus compliquée, parce que on le répète à chaque fois, attaquer pour un pilote c'est finalement toujours plus simple qu'essayer de gérer une course, encore plus aujourd'hui sans avoir accès au temps intermédiaire dans la voiture en direct. C'est difficile de trouver le bon rythme quand on est dans un mode gestion, mais en tout cas le rallye de Corse s'est vraiment déroulé parfaitement pour nous. Si on avait dû écrire le scénario, ça aurait été pas loin d'être ce qui s'est passé en fait.
Sur un plan plus global, apprécies-tu ce genre de rallye? Et il n'y en a pas beaucoup dans la saison qui permettent d'avoir des spéciales très longues en fait. Très peu de spéciales dans la journée, mais un kilométrage par spécial assez important. Il y a même pratiquement la spéciale la plus longue du championnat avec quelques 55 km. Apprécies-tu ce genre d'exercice?
Alors, dans l'ensemble, j'aime bien les longs chronos parce que c'est vrai que c'est des chronos où on peut faire de belles différences, comme je le disais précédemment, hein, d'autant plus aujourd'hui sans avoir accès au temps interminable dans la voiture. Quand on part plus de 30 minutes de spécial, on se pose toujours la question si on est sur le bon rythme, s'il y a quelqu'un qui va vraiment plus vite que nous ou pas. Et du coup, ça rajoute un petit peu de piment à la course. Après, c'est vrai que le côté négatif d'avoir des longues spéciales comme en Corse, c'est qu'il y a peu de spéciales finalement dans une journée. Donc des fois, on a l'impression que ça manque un petit peu de rythme, en particulier pour les spectateurs peut-être qui peuvent suivre la course ou s'ils veulent aussi venir nous voir passer sur place. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasion de nous voir dans la journée. Donc ça a aussi des côtés négatifs. Mais bon, moi, c'est ce que j'aime en rallye, c'est que chaque épreuve est différente. Elles ont toutes leurs caractéristiques, leurs spécificités. Et c'est vrai que c'est ça qui fait le charme pour moi du rallye.
Et puis Sébastien, il faut quand même rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre voiture. Il y a votre copilote, Julien Ingracia, avec qui vous formez depuis de nombreuses années un équipage très solide. Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer, à parfaire dans votre relation, ou est-ce que ça y est, vous vous connaissez presque trop par cœur ?
Ouais, je pense que là, ça fait une douzaine d'années maintenant qu'on est ensemble, donc on commence quand même très bien à se connaître, mais une fois de plus, c'est vrai que les notes et le travail avec le copilote, l'expérience, c'est un facteur qui aide, c'est sûr. Et il y a toujours des petites choses à peaufiner. On a toujours, je pense que Julien est aussi un petit peu un perfectionniste comme moi, et dans la préparation, on peut être sûr que Julien, quand il arrive sur un rallye, il a tout calculé au millimètre et que ses cahiers sont rangés en ordre et on va dire sa façon de faire. Et après, pour ce qui est du travail entre nous deux, nos notes, voilà, elles évoluent honnêtement aujourd'hui plus trop, mais ça arrive quand même de temps en temps, on introduise un nouveau terme ou une nouvelle façon de décrire une condition ou un virage, parce qu'en gros les notes pour nous, l'idée c'est d'avoir des informations qui contiennent le plus de détails possible, mais qui soient pas trop longues à dire et aussi pas trop longues à assimiler. D'ailleurs, pour le dernier rallye en Corse, là, c'est vrai que c'était un rallye où on répète souvent, il y a tellement de virages qui s'enchaînent les uns dans les autres que le rythme pour l'annonce des notes est hyper élevé pour Julien. Vraiment, il débite beaucoup de notes à la minute. Et moi, la difficulté, je me suis quand même rendu compte cette année que c'était pas facile non plus pour moi de toutes les assimiler avec des voitures qui vont chaque année de plus en plus vite. Mais bon, on voit le résultat, on s'en est bien sorti, mais on a quand même trouvé encore quelques petits axes de travail à la suite de la Corse.
Et on a pu constater d'ailleurs l'importance du rôle du copilote, Sébastien, avec la sortie de route de Chris Smith et de Paul Nagel. Chris Smith qui était simplement, qui écoute, vous faites une confiance absolue à votre copilote, c'est ça qui est extraordinaire. Il annonce un gauche 5, et ben il passe un gauche 5, même si ça ne passe pas en 5. C'est une image incroyable qui montre combien le résultat est dû à un duo et non pas simplement au pilote.
Ah, complètement. Sans copilote, on serait beaucoup moins vite. Ce serait complètement impossible d'aller à la vitesse où on roule, pour la simple raison qu'il est impossible de mémoriser les spéciales par cœur, d'autant plus en Corse. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez la Corse, et c'est vrai que le paysage, on va dire, les virages, ça enchaîne tellement les uns dans les autres que c'est impossible d'avoir des repères. Tout se ressemble beaucoup, et du coup, on fait vraiment confiance aveuglément aux notes du copilote. Alors, à plus de 99%, j'ai envie de dire quasiment 100% du temps, elles sont bonnes et ça colle. Mais c'est vrai que malheureusement, une erreur, des fois, ça pardonne pas, surtout quand c'est dans ce sens-là. Si c'est à l'inverse, s'il annonce un virage qui tourne plus que ce qu'il est, ça va juste coûter du temps perdu. Par contre, s'il annonce un virage beaucoup plus rapide que ce qui arrive, là, c'est la sortie de route assurée, comme ça s'est passé avec Chris Smith.
On va conclure, Sébastien, avec le perspective du prochain rallye d'Argentine, rallye que tu n'as toujours pas gagné. Ce ne sera peut-être pas forcément facile encore cette année en étant numéro 1 sur la route le vendredi.
Oui, complètement. Parce que tu as tout résumé. Après, une fois de plus, on y va avec l'objectif d'essayer de changer cette statistique. C'est vrai que c'est le seul qu'on a encore jamais gagné.
Et voilà.
Bon, je m'amuse aussi à dire à chaque départ de cette épreuve que tant que je suis champion à la fin de l'année, je suis content de jamais gagner l'Argentine. C'est peut-être un bon signe aussi.
Voilà.
mais bon, non, on y va avec l'ambition de faire au mieux. c'est sûr qu'en étant au voir sur la terre, on répète à chaque fois, hein, c'est toujours compliqué, mais après en Argentine, la météo peut peut-être éventuellement nous donner un petit coup de pouce et gommer un petit peu le désavantage d'ouvrir la route.
Merci beaucoup Sébastien Ogier d'avoir été l'invité de Motors sur RMC. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très vite, à la semaine prochaine donc pour ce rallye d'Argentine. 13h57, on retourne à Aix-en-Provence entre Christina Mladenovic et Sloane Stephens, entre Nierich et Florent Serra. Ça commence à se passer vraiment très 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 mal pour notre Française.
Oh, clairement, Christina Mladenovic est dos au mur dans ce duel des numéros 1, dans cette demi-finale de Fed Cup. Elle est menée 6-2, 4-0 après 49 minutes de jeu. Ça va un petit peu mieux dans ce jeu de service, il y a 30 tas. Mais elle y a encore une alerte parce qu'il faut prendre ce point absolument. Et non, coup de rein, passing gagnant de Sloane Stephens qui a une balle de break pour mener 5-0. On voit vraiment mal comment Christina Mladenovic pourrait inverser la tendance, Florent Serra.
Là oui, je vois pas du tout parce que tu dis qu'elle était dos au mur, ouais, moi elle est dans le mur carrément. Elle joue un peu toute seule comme elle fait parfois, c'est-à-dire que elle essaie de frapper tout le temps et sans trop temporiser, et en plus Stephens n'a qu'à contrer. Donc ce qui l'a gêné hier, c'est que Pauline avait une trajectoire de coup droit un peu arrondie, elle trouvait des zones court croisées. Là Christina, elle ouvre pas du tout le terrain. Tu disais peut-être Anthony qu'elle était un peu surprise de jouer Madison Keys, mais moi par contre, je serais pas surpris de voir Madison Keys contre Pauline Parmentier à la place de Coco Van de Veek pour le double, tu vois.
C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer parce que ce matin à l'entraînement, c'est Madison Keys qui était là.
C'est Madison Keys et je la vois bien remplacer Coco Van de Veek, donc c'est ouais, j'espère qu'elle a pas été trop perturbée par ça, qu'il faut être prêt à jouer tout le monde de toute façon. Donc là, ça sent pas bon du tout.
Merci messieurs.